France Musique. Musicopolis. Leocadia Kasperova, une biographie en pointillé. Pourquoi en pointillé ? Eh bien parce que nous ne savons pas grand-chose de cette compositrice, russe puis soviétique. En fait, pendant quasiment 100 ans, on n'en a pas parlé. Tout ce qu'on en savait, longtemps après sa mort, venait de quelques mentions éparses dans certaines biographies de Stravinsky. Elle avait été sa professeure de piano. Dans sa propre autobiographie, Stravinsky dit seulement qu'il a dû se battre avec elle. En tant que disciple d'Anton Rubinstein, elle ne partageait pas son admiration à lui pour Rimsky-Korsakov et Wagner. Il dit aussi que, nonobstant, c'était une excellente pianiste et une excellente musicienne, et qu'elle avait su l'aider à développer sa technique et donner un nouvel élan à son jeu de piano. Ce que ne mentionne pas Stravinsky, c'est tout simplement le nom de la dame. Et il ne précise pas non plus qu'elle était aussi compositrice. Eh bien moi, je vous le dis, elle s'appelait Leocadia Kasperova. Leocadia Kasperova naît en 1872 dans la région de Yaroslav, à 750 km de Saint-Pétersbourg. Jusqu'à il y a peu, c'est à peu près à son année de naissance et au fait qu'elle avait eu Stravinsky pour élève que se limitaient nos connaissances sur Leocadia Kasperova. Jusqu'à ce qu'un musicologue britannique travaillant sur le piano de Stravinsky s'interroge un peu sur ce fameux professeur qui avait réussi à inculquer au jeune Igor une technique tellement solide qu'à l'âge de 40 ans, il ait pu se remettre à son instrument et se lancer dans une carrière de pianiste. En voyageant en Russie, le musicologue a découvert d'abord que personne ne connaissait plus Leocadia Kasperova. Et ensuite qu'il y avait tout de même quelques archives la concernant qu'il a commencé à explorer. Ce Graham Griffith, puisque c'est son nom, a aussi trouvé quelques partitions de la dame et il s'est bientôt passionné pour le sujet. Graham Griffith, le musicologue britannique, s'est tellement passionné pour la musique de Leocadia Kasperova qu'il a même convaincu l'orchestre de la BBC d'enregistrer sa musique. Oui, il faut dire que les orchestres de la BBC sont plus audacieux que les nôtres concernant la musique des compositrices. C'est ainsi qu'en 2018, le 8 mars, Journée des femmes, Jane Glover a dirigé à Londres la symphonie en si mineur de Kasperova. Stravinsky parle donc de sa professeure Leocadia Kasperova uniquement comme une pianiste. Ce qui est bien compréhensible puisque de fait, elle a fait carrière comme pianiste. Dans une conversation avec Robert Kraft, Stravinsky dit qu'elle était bien connue à Saint-Pétersbourg et que son pianisme était de haut vol. Il ajoute que si son nom n'apparaît pas dans le Grove ou le Riemann, les grands dictionnaires anglais et allemands de musique, en revanche, on l'a trouvé certainement dans les dictionnaires russes de l'époque. Leocadia Kasperova avait 27 ans lorsqu'elle a eu pour élève le jeune Igor Stravinsky, âgé de 17 ans. 17 ans, un âge où l'on dénigre volontiers les vieux. Igor lui trouve mauvais goût puisqu'elle l'empêche de jouer du Wagner, dont il connaît alors toutes les partitions qu'il achète dès qu'il a un peu d'argent, et qu'elle lui rebat les oreilles avec Anton Rubinstein, auprès de qui elle a étudié. On ne mesure sans doute pas bien aujourd'hui la place, que dis-je, le rayonnement que pouvait avoir Anton Rubinstein à la fin du 19e siècle. Avant même de fonder le conservatoire de Saint-Pétersbourg en 1862, il avait déjà voyagé dans toute l'Europe et il s'était fait entendre comme un formidable pianiste, chef d'orchestre et compositeur. Ensuite, il va montrer dans sa ville d'adoption une capacité d'organisateur hors du commun. Il crée la Société russe de musique, qui donne 20 concerts par an, il soutient les jeunes compositeurs, il établit des concours et il ouvre un peu partout dans le pays des antennes du conservatoire. Avec son opéra Le Démon et ses concertos pour piano, il est aussi l'un des compositeurs les plus en vue de la capitale. Être son élève est bien sûr pour une jeune pianiste de province comme Leocadia Kasperova une chance incroyable. Thank you. Leocadia Kasperova naît dans une famille aisée. Elle vit dans un domaine à la campagne, dans une région très rurale, entourée de champs, de bois et de petites rivières qui serpentent. Sa mère joue du piano, elle peint, elle écrit des poèmes. Les quatre enfants disposent d'une petite salle de concert et de théâtre avec des colonnes blanches et une vraie scène pour jouer des petites pièces. Leocadia Kasperova commence le piano très tôt, vers 4 ans, avec sa mère d'abord, puis avec une élève de Karelia Rubinstein, la mère des frères Anton et Nikolai. Elle fait sa première apparition publique à 9 ans, et 2 ans plus tard, elle est à Moscou, où elle étudie dans l'école d'une élève de Nikolai Rubinstein, fondateur du conservatoire de cette ville. Décidément, les Rubinstein reviennent souvent dans son histoire. Pas étonnant donc qu'elle se fasse entendre d'Anton, le plus flamboyant sans doute des membres de la famille. Et qu'en 1888, à l'âge de 16 ans, elle aille s'installer à Saint-Pétersbourg, la capitale, pour travailler avec lui. La mère de Leocadia Kasperova a demandé qu'elle soit admise au conservatoire de Saint-Pétersbourg en piano, théorie de la musique, composition et autres sujets théoriques. Sa matière principale est la théorie, mais elle suit néanmoins la classe de Rubinstein pour le piano. Elle fait partie d'un petit groupe que Rubinstein prépare pour l'examen final et on dit qu'elle est la plus talentueuse. À l'époque où Leocadia Kasperova est élève au conservatoire de Saint-Pétersbourg, à la fin des années 1880, la ville est culturellement très active. Pour la musique, on pourrait dire que deux clans s'opposent. Il y a d'une part ceux qui sont considérés comme les conservateurs, dont Anton Rubinstein, le directeur du conservatoire, son professeur de piano, et d'autre part le groupe des cinq, qui ne sont d'ailleurs plus que trois. Moussorgski est mort en 81 et Borodine en 87. Mais Rimsky-Korsakov est une sorte de pont entre les deux clans, puisque membre du petit groupe, il est aussi professeur au conservatoire. L'année 1888, où Kasperova arrive dans l'école, est celle de Scheherazade et de la Grande Pâque russe. Côté des concerts d'orchestre, donnés notamment par la Société russe de musique, il y a aussi le Théâtre Mariinsky, qui dispense ballet et opéra. Et à côté encore, toute une vie musicale dans les salons, que vraisemblablement Leocadia Kasperova a l'occasion de fréquenter, comme pianiste et même comme chanteuse. Après la mort de son père, la famille fait face à quelques problèmes d'argent. La jeune femme qui obtient brillamment son diplôme du conservatoire à 23 ans doit donner des leçons de piano en privé. Elle cherche aussi à se faire embaucher dans des institutions. Elle enseigne 10 ans à l'école de musique de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'elle a pour élève Stravinsky entre 1899 et 1902. Pendant toutes ces années où Leocadia Kasperova vit à Saint-Pétersbourg, elle compose. Elle donne des concerts. On sait par exemple qu'elle a joué plusieurs fois son concerto pour piano, à présent perdu, à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et qu'elle fait même un voyage à l'étranger. On a des relations de ses concerts à Berlin notamment, où elle fait entendre l'une de ses sonates pour violoncelle et piano, et aussi à Londres, où elle obtient grand succès. Son premier programme, de musique de chambre, permet d'écouter son trio, tandis que le second est un véritable récital de piano, avec des pièces du grand répertoire, Bach, Schumann et Chopin, puis quelques pièces russes de Liadov, Arensky et Rubinstein, et enfin, quelques-unes de ses propres petites pièces pour piano. Le Times remarque que dans toutes les œuvres, elle a montré un son magnifique, ainsi que beaucoup de précision et de clarté dans le toucher. Le Musical Standard, pour sa part, souligne qu'elle a gagné l'admiration des musiciens. On ne sait rien de la vie sentimentale de Leocadia Kasperova. A-t-elle été amoureuse du violoncelliste qui lui a inspiré deux sonates pour violoncelle? En tout cas, elle n'a pas eu le temps ou l'occasion ou l'envie de se marier. Le tournant que prend sa vie en 1916 est d'autant plus surprenant. En 1916, Kasperova enseigne dans deux écoles, assez chics, dont un institut pour jeunes filles nobles. En même temps, elle a en privé pour élève un ingénieur militaire du nom de Sergueï Andropov. La participation d'Andropov au journal Iskra, l'étincelle, journal du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, dirigé notamment par Lénine, avait conduit plusieurs années auparavant à son arrestation et à sa déportation en Sibérie. À la suite de son enfermement, Andropov s'était exilé en Europe de l'Ouest et il était revenu en Russie au début de l'année 1916. C'est à ce moment-là qu'il prend des leçons de piano avec Kasperova. Elle ne connaît pas, au début du moins, ses activités révolutionnaires. Il est cultivé, il parle quatre langues étrangères et il a pour la musique une intelligence et une mémoire extraordinaires. Leur mariage a lieu en septembre 1916. Aussitôt après son mariage, Kasperova démissionne de ses postes d'enseignante dans les deux écoles chics de Petrograd, puisque c'est ainsi que s'appelle la ville à présent. Une décision qui lui a sans doute sauvé la vie en empêchant qu'elle soit assimilée à des institutions bourgeoises au moment de la révolution de 1917. En 1918, le couple Kasperova-Andropov s'installe à Rostov-sur-le-Don, dans la famille d'Andropov. Elle donne des leçons et quelques concerts. En 1922, les époux prennent un appartement à Moscou, juste en face du conservatoire. Elle donne toujours des leçons, occasionnellement un concert, et elle est très investie dans la Société de musique de chambre de Moscou. Elle compose, un peu, mais uniquement des petites pièces, pour piano ou chant. Ces œuvres-là resteront inédites et ne seront jamais jouées en public. Elle meurt en 1940, à Moscou. Le final de la symphonie en si mineur de Leocadia Kasperova, l'orchestre de la BBC dirigé par Jane Glover, enregistré le 8 mars 2018. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui d'Antoine Viossa pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.